BFM Business. Midi, l'heure H. Erwan Morris.
Bonjour Patrick Martin-Génier.
Bonjour Erwan.
Merci beaucoup d'être avec nous sur BFM Business. Vous êtes enseignant à Sciences Po, spécialiste et des questions européennes. À la une aujourd'hui, ce plan de relance européen. Bruno Le Maire a réagi tout à l'heure sur nos antennes. Écoutez.
Je le dis avec beaucoup de gravité. C'est l'avenir de l'Europe au XXIe siècle qui se joue dans les heures qui viennent à Bruxelles.
On parle d'un plan de relance de 750 milliards d'euros. Paris espère en obtenir 35 milliards. Les négociations donc sont en pause pour l'instant, reprises dans les prochaines heures. Ça sera dans l'après-midi. Les pays frugaux, Pays-Bas, Autriche, Suède, Danemark et Finlande bloquent pour l'instant les négociations. Premier constat, Patrick Martin-Génier, une fois de plus, les divisions au sein de l'Union européenne qui sont quand même assez flagrantes, ça c'est le premier constat qu'on peut poser.
C'est le premier constat et c'est un constat dramatique parce que avoir un Conseil européen aussi long qui a commencé vendredi matin à 10h et qui continue aujourd'hui avec une séance plénière qui doit continuer, éventuellement aboutir à un accord à 16h, c'est extrêmement long. Nous étalons nos divisions. Cela est consternant et cela naturellement fait le jeu des grandes puissances, États-Unis, Chine, Russie. Et donc on est en train d'afficher notre division alors qu'on semble négocier sur des fonds. Vous voyez la différence entre 25 et 50 milliards entre ce que vous appelez les frugaux et les autres pays. Par conséquent, il faut effectivement, les enjeux sont essentiels. Le fait d'afficher de cette façon notre division décrédibilise considérablement l'Europe à l'international, mais aussi vis-à-vis de ses propres citoyens.
Vous croyez que les Américains, les Chinois, là, sont en train de rigoler ?
Ah, carrément, oui, parce que Donald Trump ne peut pas supporter l'Union européenne. Il considère qu'il faut faire éclater cette Union européenne. Il comptait sur Boris Johnson, mais maintenant le Royaume-Uni est hors de l'Union européenne. Et il compte maintenant sur d'autres pays, comme les petits pays, comme les Pays-Bas. Donc, naturellement, et tout ce qui peut contribuer à affaiblir l'Europe, qui parfois est considérée comme donneuse de leçons, eh bien, ne peut que réjouir Vladimir Poutine ou Xi Jinping, le dirigeant chinois, dans la mesure où l'Europe a quand même des ambitions très importantes, notamment sur le plan de la défense européenne.
Bien sûr. Le sujet encore très sensible à l'heure où on se parle, c'est celui du volume des subventions, un écart de 10 milliards d'euros sur lequel il faut se mettre d'accord. On n'obtiendra pas, a priori, les 500 milliards qui étaient réclamés par la France et par l'Allemagne. La ligne rouge, néanmoins, franco-allemande, c'est 400 milliards d'euros. Qu'est-ce qu'on peut espérer, selon vous, la poursuite de ces négociations dans l'après-midi, Patrick Martin-Génier ? Est-ce qu'on va trouver un accord ? Est-ce qu'il sera satisfaisant?
Alors, il peut y avoir une rupture, naturellement, parce que la France, vous l'avez dit, a une position très importante. Nous ne voulons pas descendre en dessous de 400 milliards d'euros. Et hier, une proposition avait été déposée sur la table par les Pays-Bas, les frugaux, c'était entre 325 et 350 milliards d'euros. Bon, franchement, négocier pour 25 milliards, est-ce que ça vaut le coup qu'il y ait une rupture? Surtout que les enjeux, et cela a été souligné ce matin par M. Le Maire, c'est quand même la reprise économique, c'est la survie économique et financière de l'Europe, et par-delà cela, le futur de la construction européenne. Donc, c'est certain que négocier pour quelques 25 milliards d'euros, eh bien, c'est à la marge, ça ne fait pas très sérieux. Mais il n'empêche que qu'il s'agisse de Mark Rutte, le premier ministre néerlandais, ou Sébastien Kurz, qui est le chancelier autrichien, eh bien, il mettait la barre plutôt à 325, 350 milliards d'euros. Il y a une question de principe. Ils veulent plus de prêts, ou en tout cas un maximum de prêts, plutôt que des subventions dites à fonds perdus, comme on entend en Italie, parce que vous savez que les subventions seraient remboursées par l'Union européenne, tandis que les prêts serait remboursé par les États membres séparément.
Et ça coûte plus cher. C'est un sommet qui va laisser des traces, Patrick Martin-Génier ?
Oui, manifestement, parce que l'Europe perd la boussole, on ne sait plus où on va. Il n'y a plus d'ambition politique commune. On est incapable de se mettre d'accord sur une stratégie commune. On a les États du Nord qui ont une certaine conception économique. On a les États du Sud qui ont une vision différente. La France est entre les deux. Le couple franco-allemand, c'est très important, mais ne suffit plus à entraîner l'Europe à lui seul. Et enfin, il ne faut pas oublier les États de l'Europe de l'Est, comme M. Orban, M. Morawiecki, aussi le Premier ministre polonais, qui ont menacé de mettre leur veto à l'adoption du plan de relance si on les embête, excusez-moi l'expression, mais sur l'état de droit, notamment l'indépendance des juges, l'indépendance des journalistes. Vous savez qu'ils sont en procédure d'infraction avec la Commission européenne et Emmanuel Macron, je l'ai entendu hier, est arrivé au Conseil européen en disant qu'il ne fallait pas perdre les valeurs de l'Union européenne, ce qui est tout à fait louable. Il n'empêche que la France va devoir reculer là-dessus si elle veut que M. Orban ne mette pas effectivement son veto sur le budget.
Bon, on va continuer à suivre tout ça, bien sûr, tout au long de la journée et toute la soirée sur BFM Business, puisque les négociations se poursuivent, donc vous l'avez compris, tout au long de l'après-midi. Aujourd'hui s'ouvre aussi un autre dossier, les négociations, c'est qu'ils repartent, hein, on n'est pas au tout début, ça fait un moment qu'on en parle, entre Londres et l'Union Européenne, autour du Brexit, bien sûr. Jusqu'à maintenant, aucun élément vraiment fort qui est ressorti de ces discussions. Les dernières négociations se sont même arrêtées avant de se terminer. Qu'est-ce qu'il faut en retenir? Et puis, est-ce qu'il faut s'inquiéter surtout de ce dossier-là brûlant aussi du Brexit?
Je crois qu'il faut s'inquiéter, effectivement, de la façon dont les choses évoluent, ou n'évoluent pas d'ailleurs. Parce qu'on a l'impression que du côté du Royaume-Uni, on ne veut pas négocier, on ne négocie pas sérieusement. L'Union européenne, elle, est sur ses principes, qui ont été d'ailleurs signés par un accord politique au mois de décembre 2019, par Boris Johnson lui-même, et on a l'impression que rien n'est fait du côté britannique pour avancer véritablement et sérieusement. On est d'accord sur rien.
C'est quoi les points de tension?
Les points de tension, c'est premièrement, est-ce que on va se mettre d'accord sur ce qu'on appelle éventuellement une compétition sur l'aspect social, sur l'aspect fiscal, sur l'aspect environnemental.
Bah, tous les sujets fondamentaux.
Mais tous les sujets fondamentaux, sur la pêche également. On n'est pas d'accord du tout sur la pêche, alors qu'on est quand même très imbriqué. Et donc sur les sujets essentiels, c'est-à-dire que si demain on se retrouve aux portes de l'Europe avec un État qui va baisser considérablement sa fiscalité sur les entreprises. Également qui va avoir qui va négliger le droit social, mais qui va demander à avoir accès au marché unique dans des conditions qui ne seront pas équitables en quelque sorte, hein, c'est l'équité qui va compter, et bien naturellement qu'ils auront un avantage compétitif très important, mais dans ces conditions l'Union Européenne a dit qu'il n'autoriserait pas le Royaume-Uni à avoir accès de cette façon au marché unique.
L'objectif de ces négociations, Patrick Martin-Génier, ça reste d'éviter le no deal toujours ou pas?
Bah, du côté de l'Union Européenne, bien sûr, Michel Barnier s'accroche. Et d'ailleurs, tout le monde le soutient.
Hein, Michel Barnier, d'ailleurs, qui avait reproché aux Britanniques de chercher à obtenir une sorte de best-of des accords commerciaux conclus par l'Union Européenne sans les contreparties.
C'était oui, assez... ouais. C'est ce qu'il veut, en fait. Ce que veut le Royaume-Uni, c'est d'avoir ce qu'on appelle en anglais le cherry-picking, c'est-à-dire, finalement, le beurre, l'argent du beurre, etc. Donc, c'est ce qu'ils veulent, le meilleur, sans donner des garanties à l'Union Européenne. Tout cela n'est pas acceptable. Et ce qui est très inquiétant, c'est que pendant que le Royaume-Uni, j'allais dire, fait semblant de négocier, on va se rassembler de nouveau. Oui. Pour l'instant, ils prennent des contacts qui avec les États-Unis, qui avec l'Australie, pour essayer de négocier des grands accords commerciaux, dans notre dos, si j'allais dire, également. Et surtout, on voit qu'ils sont en train de mettre en place une stratégie de frontières et ils ont débloqué des fonds considérables pour mettre sur point 40 points de frontières très importants, dans le Kent notamment. Ce qui montre bien que finalement, dans leur état d'esprit, il n'est pas véritablement à la négociation et qui n'exclut pas une rupture qui pourrait conduire effectivement à l'absence d'accord au 1er janvier 2021.
À cette étape, puisqu'on va parler aussi des entreprises, on a quelques chiffres qui témoignent des inquiétudes du monde de l'entreprise. 75% des entreprises britanniques ne sont pas prêtes pour le Brexit, nous dit une toute récente étude. La moitié juge qu'il est impossible de s'y préparer. Ça, ce sont aussi des signes.
Oui.
C'est
des
compliqué.
Signes qui montrent que le gouvernement est dans une posture essentiellement politique. Pourtant, c'est un gouvernement conservateur qui est censé être sensible aux entreprises. Et pas du tout. Ils sont dans une position tout à fait dogmatique avec Michael Gove, qui est très dogmatique, Dominic Cummings, qui est le conseiller de Boris Johnson au 10 Downing Street. Et donc, ils sont dans une position tout à fait dogmatique. Ils ne pensent pas, bien qu'ils le disent, aux intérêts économiques. Et par exemple, je pense notamment aux entreprises nord-irlandaises qui sont en train de demander d'ores et déjà des indemnités parce que ça va leur coûter extrêmement cher. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que s'il n'y a pas d'accord, il devrait y avoir fatalement une frontière entre l'Irlande du Nord et le reste de l'Angleterre. Et ça, ce sera tout à fait dramatique. Dramatique pour les entreprises, naturellement, en Irlande du Nord, dont beaucoup licencient. Mais tout le monde a à y perdre dans cette absence de négociation, y compris les entreprises européennes, mais surtout les entreprises du Royaume-Uni. Effectivement, la Chambre de commerce là-bas dit que beaucoup d'entreprises ne sont pas prêtes à l'absence d'accord.
Voilà, donc deux dossiers, le plan de relance européen et puis les négociations, cinquième round des négociations autour du Brexit que nous continuerons bien sûr de vous faire suivre sur BFM Business. Merci beaucoup Patrick Martin-Génier. Je rappelle que vous êtes enseignant à Sciences Po, spécialiste des questions européennes. Restez avec nous sur BFM Business. Dans un instant, nous retrouvons l'investisseur David Bavrez, basé à Hong Kong. Il est de passage dans nos studios à Paris. On fait le point avec lui sur la reprise chinoise. Va-t-elle durer ? À tout de suite.
BFM Business, midi, l'heure H. Erwan Maurice.
La reprise chinoise va-t-elle durer ? Question que nous posons aujourd'hui sur BFM Business à notre invité David Bavrez. Bonjour David.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous dans nos studios. Vous êtes investisseur basé à Hong Kong, de passage à Paris. Alors on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. On observe un rebond de l'économie chinoise ces dernières semaines. C'est vrai qu'on en parle régulièrement maintenant. La fameuse reprise en V, c'est-à-dire la Chine a été la première à tomber dans la crise, mais elle est aussi la première à s'en relever. Le PIB progresse de plus 3,2% au deuxième trimestre par rapport à la même période l'an dernier. Le premier constat qu'on fait et que vous faites peut-être aussi, David Bavrez, c'est que ça y est, ça repart du côté de la Chine.
Oui, alors la reprise est là. Et ça, c'est quand même très bien parce qu'on la cherche en Europe, on la cherche aux États-Unis, on l'a en Chine. Alors maintenant, le chiffre de 3,2, la Chine est quand même le seul pays à connaître son PNB 15 jours après la fin du trimestre. Donc, prenez ça plutôt comme une estimation. Ce qui est intéressant, c'est la tendance. C'est qu'on était à moins 6 au premier trimestre, on est à plus 3 au second. Donc, on voit que les choses s'améliorent. Et ce qui est intéressant, quand vous allez dans la granularité, c'est que vous voyez que la consommation, elle, est lente.
On va y revenir en détail parce qu'effectivement, il faut regarder tout ça de très très près. Et la consommation d'un côté.
Et que l'investissement, lui, est fort. Et pour nous, investisseurs, en fait, la mauvaise nouvelle est une bonne nouvelle parce que ça veut dire que le gouvernement doit continuer à soutenir l'économie. Et pour nous, c'est ça qui est important, de savoir qu'on va pouvoir compter au second semestre sur le soutien gouvernemental à la croissance. Et c'est pour ça qu'on est confiant.
On ne peut pas dire en tout cas que Pékin n'ait pas été présent pendant cette crise. La Chine a largement soutenu l'industrie à coups de milliards, de dizaines, centaines de milliards. La consommation, vous le disiez, elle a du mal à repartir.
Oui,
en revanche, et sans consommation, David Bavrez, pas de croissance durable.
Alors ce qui est intéressant, c'est qu'elle change, cette consommation. Les 10 dernières années, elle a été fantastique et c'était une consommation de désir. Donc pour nous, société française, c'était le luxe et l'aéronautique. Et là, on voit que du désir, on passe au besoin. On veut de la santé, au sens large, y compris assurance santé. On veut du bien-être, y compris pratique du sport. Les ventes de vêtements de sport sont en forte hausse. Et puis, on veut du style de vie. Donc, on veut des services à la personne. On veut de la sécurité alimentaire. Et tout ça, en fait, quand on y réfléchit, ce sont autant d'opportunités pour les sociétés françaises. Parce que ce sont des secteurs sur lesquels on peut se placer.
Mais alors, c'est la question quand même fondamentale, parce que la croissance, oui, elle est là, elle repart. Est-ce que pour autant, vous voyez, vous, une croissance durable ? Est-ce que dans les prochains mois, est-ce que l'année prochaine, on va continuer à avoir
cette croissance ? Parce que ce qui est intéressant, c'est que le plan stimulus de croissance du gouvernement, il n'a pas commencé à avoir de l'impact. Et ce qui est intéressant, on parle quand même de 1400 milliards de dollars. C'est un chiffre absolument démentiel. La grande différence par rapport à 2008, c'est qu'en 2008, la Chine a sauvé le reste du monde. Là, ce plan, il est fait par la Chine, pour la Chine. Donc cet argent, il ne va être dépensé qu'en Chine. Et ce qui est très intéressant, comparé encore une fois il y a 10 ans, c'est qu'entre un tiers et un quart va être dépensé dans ce que les Chinois appellent la nouvelle infrastructure.
C'est quoi ça ?
Alors la nouvelle infrastructure, c'est, si vous pensez les 10 dernières années, si on devait résumer les 10 dernières années en un mot, en Chine, ce serait smartphone. Ce qui a vraiment changé la vie des Chinois, c'est le smartphone. Et le gouvernement pense que les 10 prochaines années tiennent en un mot, qui est connectivité. C'est-à-dire que la croissance économique va venir du fait qu'on a une nouvelle connectivité. Et cette nouvelle connectivité, elle se décline à la fois entre les villes, c'est pour ça que c'est les trains à grande vitesse, à l'intérieur des villes. C'est ça qui est nouveau, c'est l'intelligence artificielle pour régler les flux d'une population qui a une densité très supérieure à ce qu'on a nous en Occident. Et puis troisièmement, c'est la connectivité entre vous et vos objets connectés.
Oui.
Donc c'est ce qu'on appelle l'Internet des objets et qui font que nous allons avoir tout un tas de services qui vont être digitalisés. Donc vous voyez, connectivité entre les villes, à l'intérieur des villes et entre vous et les objets connectés. Et la Chine pense que c'est l'histoire des 10 prochaines années.
Et ça, la crise mondiale et qui est partie de la Chine et qui a frappé très lourdement la Chine, elle a accéléré aussi ce phénomène, cette tendance.
Elle a accéléré la foi du gouvernement chinois dans la technologie. Moi, ce qui me fascine, c'est que si vous pensez aux États-Unis, 20e siècle, c'est les États-Unis au 20e siècle, c'est la foi dans la technologie.
Oui.
Et ce que vous voyez dans cette crise du Covid,
Internet.
C'est qu'on a un gouvernement américain qui refuse la science et la technologie pour traiter le Covid, et qu'en Chine, au contraire, on accélère d'une manière générale l'adoption de la technologie.
Donc, quelle priorité en termes d'investissement, David Bavrès ? C'est essentiellement la technologie là, pour investir dans la croissance chinoise de demain ?
Alors, c'est là que le gouvernement met son argent, mais le gouvernement ne va jamais arriver tout seul. Mmh. Il a le privé avec lui. Donc, vous prenez une société comme Tencent, le grand leader chinois. Tencent a annoncé un plan de 75 milliards de dollars sur 5 ans. 15 milliards par an. Qui, en Europe, quelle société en Europe privée, nous a dit qu'elle allait consacrer 15 milliards de dollars par an dans les 5 prochaines années sur l'intelligence artificielle ?
Aucune.
Ben voilà. Ouais. Donc c'est là où on se dit, ben, nous, Europe, il va falloir qu'on réagisse.
Depuis début juillet, donc tout récent, hein, les bourses de Shanghai et de Shenzhen ont bondi approximativement de 14%. Certains économistes craignent une bulle, parce que côté investissement, ça repart très très fort, ce que vous nous expliquiez. Est-ce que ça vous inquiète ? Est-ce que vous croyez aussi à cette bulle ?
Alors, il y a une bulle partout dans le monde, hein, je vous rassure.
Si
vous êtes soucieux de la bourse chinoise, vous pouvez être aussi soucieux du S&P qui est à des valorisations qu'on ne comprend pas. L'idée, c'est que la bourse chinoise, à court terme, on sait peut-être très irrationnelle. Mmh. Et là, on voit bien que, compte tenu de ce qui s'est passé à Hong Kong, on y reviendra peut-être, il y a une volonté du gouvernement chinois de renforcer la place de Hong Kong comme centre financier international et notamment de ramener les sociétés chinoises listées aux États-Unis en Chine pour dire que les meilleures sociétés chinoises doivent bénéficier aux investisseurs chinois. Donc, personnellement, je pense sur les 10 prochaines années que la bourse de Hong Kong va nous surprendre de manière positive, alors que je ne suis pas sûr du S&P. Pour vous donner une idée, vous avez l'homme le plus riche de Chine en 2008, c'était le président du CC, il s'appelle Gomia, a été mis en prison. 12 ans. Il est sorti il y a 10 jours et il a dit, mais qu'est-ce que vous avez fait pendant 12 mois ? L'indice de la bourse de Shanghai est exactement au même niveau du jour où je suis allé en prison. Donc, la Chine, vous n'avez rien fait pendant 12 ans. Alors que nous, on croit qu'elle a fait plein de trucs. Quand vous êtes investisseur, la Chine n'a rien fait dans les 12 dernières années. Par contre, dans les 10 prochaines, je pense que si elle adopte cette technologie, facteur de productivité, pour les investisseurs internationaux, très intéressant.
Mais vous avez l'air de beaucoup croire encore à Hong Kong, David Bavrès. Je sais que vous vivez là-bas, mais les témoignages qu'on a, quand même, sont de plus en plus pessimistes pour Hong Kong sur ce dossier très épineux. C'est devenu un petit peu le talon d'Achille, la brebis galeuse de Pékin. Si bien que, d'ailleurs, ce matin, notre correspondant Sébastien Balzic nous dit que Pékin, pour affaiblir Hong Kong, capitalise désormais sur Hainan, cette île à l'extrême sud de la Chine, grande comme 100 fois la Corse, pour qu'on se représente peut-être un petit peu mieux. Pékin veut faire de Hainan la plus grande zone économique d'Asie. On a aujourd'hui 120 à peu près projets économiques en cours de développement. On est en droit de se poser la question si Pékin ne veut pas justement se détourner un petit peu de Hong Kong pour avoir une place financière, d'investissement, de tourisme aussi, plus facile à gérer.
Oui, alors, je lis la presse occidentale depuis Hong Kong et tous les jours, j'ai des faire-part de l'avis de décès. Hong Kong est mort. Et moi, je suis là pour vous dire, Hong Kong n'est pas mort. Et Hong Kong n'est pas mort et Hong Kong ne sera pas mort tout simplement parce que la Chine a besoin de Hong Kong. Juste pour vous dire, Pékin dit Hong Kong est 3% du PNB, donc on n'en a pas besoin. Les actifs bancaires de Hong Kong sont 8 fois le PNB, c'est-à-dire que c'est 25% du PNB chinois. Donc si Hong Kong disparaît...
Mais est-ce que ça peut durer, David Bavrès, si c'est Pékin qui a les clés finalement? Est-ce que Pékin...
Bien sûr que ça va durer parce que c'est dans l'intérêt de la Chine. La Chine va avoir besoin, dans les 10 prochaines années, d'attirer des capitaux étrangers chez elle. Il n'y a que Hong Kong qui peut le faire. Donc Hong Kong n'est pas mort. Hong Kong va être obligé de se réinventer. Et Hong Kong, vous avez... Bon, vous savez, Hong Kong, c'est trois choses. C'est la finance, le service aux entreprises et le tourisme. La finance... Les Chinois, maintenant qu'ils contrôlent mieux Hong Kong, vont vouloir booster cette bourse chinoise. Le service aux entreprises, Pékin veut qu'il soit développé pour toute la région du Guangdong, qui veut construire la Californie du XXe siècle. Et le tourisme que vous avez évoqué, Pékin, le tourisme historique de Hong Kong, qui est le tourisme du retail, Pékin veut qu'il se déplace à Hainan pour que l'argent cesse de sortir de Chine et reste en Chine pour acheter tous les produits de luxe. Et par contre, on va avoir un nouveau tourisme culturel et tourisme médical. Donc Hong Kong se réinvente. Et quand vous parlez de Hong Kong, ils disent c'est ce qu'on a toujours fait. Donc, ce n'est pas un problème.
On a aussi une étude très intéressante sur Deloré Hermès sur les défaillances d'entreprises dévoilées ce matin pour BFM Business qui nous dit que le pire reste à venir avec une vague de faillites en cascade que prédit donc l'assureur crédit entre la fin de cette année et le début de l'année prochaine. Je cite, « Les plans d'urgence ne font que retarder une situation inévitable », c'est ce que nous dit Deloré Hermès qui prédit une hausse des faillites de 20% en Chine. Comment vous regardez ça?
Le problème, c'est qu'il n'y en a pas assez. Si le problème, c'est qu'on
maintient
de faillites.
C'est pas assez de faillites.
C'est qu'on maintient ce qu'on appelle les zombies, toutes ces sociétés zombies, qui sont ce qu'on appelle les SOI, donc les entreprises gouvernementales. Et ce qu'on voudrait, c'est que la restructuration, en fait, s'accélère. Donc, le fait que les faillites soient en hausse, pour nous, j'allais dire, plus il y a de faillites de sociétés étatiques qui bénéficient de subventions gouvernementales, mieux on se porte, nous, investisseurs privés.
Donc, vous êtes en train de nous dire, vive la faillite, vive le monde de demain.
Vive la faillite des sociétés subventionnées par l'État qui ne sont pas profitables de manière organique.
Pour renouveler l'écosystème.
Absolument, c'est pour ça que vous voyez que ce plan stimulus chinois, il est différent d'il y a 10 ans, parce que ces sociétés zombies, c'est justement celles qui ont été financées par le plan stimulus d'il y a 10 ans. Et ça, la Banque centrale n'en veut plus. Il y a une grande différence entre la Chine et l'Europe et les États-Unis, enfin il y a beaucoup, mais c'est le seul grand pays où la Banque centrale refuse de monétiser la dette, refuse d'acheter la dette, en disant on n'en veut pas parce qu'on veut défendre notre devise. Et ça, vous voyez bien en Europe, vous voyez bien aux États-Unis que les banques centrales continuent d'arroser et d'acheter la dette des gouvernements, sans demander aucune restructuration en échange.
La crise est passée, la relance s'est entamée. Vous nous dites, si je traduis bien David Bavresse, que vous êtes plutôt optimiste pour l'avenir en Chine.
Mais il faut être toujours contracyclique en Chine. Donc c'est quand elle ralentit qu'il faut y aller. Et le paradoxe, c'est que les Chinois nous mettent dehors, parce qu'ils disent ce ralentissement, il faut que ce soit les sociétés étrangères qui se le prennent. Ouais. Et en fait, c'est maintenant qu'il faut s'y intéresser.
La Chine aura besoin de Hong Kong, quoi qu'il en soit, pour sortir totalement de cette crise?
Absolument. Ça, vous ne pouvez pas financer la Chine sans Hong Kong. Je vous rappelle, c'est les actifs bancaires, retenez juste ça, les actifs bancaires à Hong Kong sont 25% du PNB chinois. Si ça pète, la Chine pète. Donc, mais ça fait partie de la stratégie de négociation fantastique de Pékin, comme d'habitude, en disant je n'ai pas besoin de vous, au moment où en fait ils ont le plus besoin de vous. Mmh. Oui, ils font ça avec nous, ils font ça avec Hong Kong. Ouais.
Un dernier mot sur...
Mais c'est parce qu'on ne sait pas se défendre.
Oui, c'est sûr. On en parlait avec le plan européen tout à l'heure avec Patrick Martin-Génier. Effectivement, je pense que vous vous rejoignez là-dessus. Sur le coronavirus, pour terminer en quelques mots, avec cette deuxième vague qui potentiellement se profile, en tout cas, c'est un scénario probable, ça vous inquiète pour cette reprise dont vous nous parlez?
Alors, à Hong Kong, pas du tout, parce que avant même que le port du masque soit obligatoire, toute la population l'a adopté. Et je vous rappelle qu'à Hong Kong, 7 millions d'habitants, seulement 10 morts dans la région, la ville qui a la plus forte densité de population au monde. Un Hongkongais sur deux vit au-dessus du 16e étage. Donc, dans l'ascenseur, il respecte pas la distanciation sociale. Et pourtant, seulement 10 morts. Donc, il faut absolument que tout le monde porte le masque. Il n'y a pas de discussion.
David Bavresse, merci beaucoup d'avoir été avec nous sur BFM Business.
Mais c'est moi, merci.
Très bon été. Et je rappelle que vous êtes investisseur basé à Hong Kong. Et on faisait un point sur toutes ces actualités de la Chine là, sur cette année. Et puis sur la rentrée où il y aura encore beaucoup, beaucoup de choses à raconter, c'est certain. Restez avec nous. On se retrouve dans un très court instant pour l'essentiel de l'actualité économique.